Un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple. Où étaient-ils passés ?
Voilà, c'est une lecture du livre de Rachel Carson, Un printemps silencieux, paru en 1963, livre historique, et c'est aujourd'hui à la une de la science l'occasion, Héloïse Rambert, d'évoquer peut-être un futur printemps silencieux également dans notre pays.
Alors, espérons que l'on ne va pas en arriver là, Mathieu, mais force est de constater que la biodiversité ne se porte pas très bien en France. Un rapport sur la biodiversité française, publié en partenariat entre le ministère de la Transition écologique, l'Agence française pour la biodiversité et l'Observatoire national de la biodiversité, qui vient de paraître, nous apprend que sa dégradation s'aggrave encore un peu sur notre territoire. Notre territoire qui, rappelons-le tout de même, abrite presque 10% de la biodiversité mondiale, en comptant les richesses de la France métropolitaine et d'outre-mer. Pour en parler, nous recevons Antoine Lévesque qui a contribué à ce rapport. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste et chargé de mission milieu naturel, espace protégé et biodiversité au ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, dites-nous d'emblée quels sont les grands constats de ce rapport.
Les grands constats de cette étude, le premier chiffre qui va être marquant, c'est qu'aujourd'hui, un quart de notre biodiversité, un quart des espèces sont aujourd'hui menacées de disparition ou ont déjà disparu. 23% sont menacées, 3% ont d'ores et déjà disparu. Je parle de la France métropolitaine, de l'outre-mer. Et vous l'avez rappelé, la France a une responsabilité importante en matière de biodiversité puisque nous abritons un patrimoine naturel exceptionnel. 10% de biodiversité mondiale, vous l'avez dit, 81% des écosystèmes qui sont en Europe sont présents en métropole. C'est pas rien. On a également une responsabilité vis-à-vis d'espèces dites endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là, et pas ailleurs dans le monde. On en a plus de 19 000. Ça rappelle les enjeux qui sont importants sur cette thématique.
Alors, quelles sont les espèces qui souffrent le plus, d'après vous ?
Donc, on disait un quart d'espèces menacées, métropole, outre-mer, et bien c'est en outre-mer. En outre-mer, on a les espèces des îles d'outre-mer, où ce chiffre d'un quart, en fait, s'élève à 40%. Près de 40%. Nous avons dans les océans les coraux, sur une petite centaine de sites de suivi, 29% de ces sites montrent une diminution des surfaces de corail vivant. Donc les coraux blanchissent. Voilà.
Et autour de nous, dans nos jardins, dans nos champs, est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont en train de changer ?
Et c'est ça un petit peu, pas la nouveauté, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on le constate, mais qu'on a peut-être moins en tête. On a tous en tête les grandes espèces emblématiques, mais notre biodiversité du quotidien, celle qui est à nos portes, dans nos jardins, dans nos champs, dans nos rues, disparaît, elle aussi. Et ça, c'est le fait important. Les oiseaux, les chauves-souris, moins 38% des individus de chauves-souris ont disparu en 10 ans seulement.
Alors, comment ça s'explique, comment expliquer en 10 ans une telle hécatombe des animaux ?
C'est avant tout la dégradation de leur milieu naturel. C'est leur maison, les habitats naturels, c'est comme ça que ça s'appelle, au premier rang desquels les zones humides, les tourbières, les marécages, les zones littorales, mais aussi les prairies, pour ne citer que ces exemples. En fait, sur ces habitats, il y a des cumuls de pression qui se font. Et
quel type de pression, alors justement, pour être très concret dans...
La pression la plus importante, ou l'une des deux plus importantes en tout cas, c'est à mon sens l'artificialisation. J'ai entendu là que vous alliez parler d'urbanisme, d'urbanisation. Donc effectivement, avec les enjeux voitures, on est là au cœur du sujet. L'artificialisation, les voies de transport, les parkings, les centres commerciaux. 66 000 hectares par an en 10 ans. Qu'on a perdu en artificialisant. Ce sont des champs, ce sont des prairies, des forêts qui disparaissent. C'est la première raison.
Et l'agriculture intensive, par exemple, a un rôle aussi dévastateur pour la faune ?
Alors, ce sont les excès de cette agriculture intensive. Les excès, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des monocultures. Là où on peut avoir des systèmes de production, on va alterner les cultures sur les mêmes parcelles. Et d'année en année, on va répéter toujours la même culture. Donc on va perdre de la diversité dans nos paysages. Et c'est aussi l'emploi des phytosanitaires, ce qu'on appelle plus couramment les
pesticides.
Les pesticides, tout à fait. Plus 12% entre 2009 et 2011, la période de référence qui nous sert de repère. Et aujourd'hui, c'est pas rien. Et puis la baisse des prairies, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un facteur important.
Et paradoxalement, dans ce rapport, vous expliquez aussi qu'il y a des espèces qui vont mieux, qui relèvent un peu la tête. Ça semble paradoxal. Comment ça s'explique ?
Ces espèces qui vont mieux, ça concerne par exemple le loup, la loutre, le castor, ça concerne certains oiseaux qui étaient protégés. C'est peut-être là un des éléments de réponse à votre question, comment ça s'explique, par les mesures de protection qu'on va mettre en place. Les mesures de protection à la fois des espèces elles-mêmes, mais également les mesures de protection sur les espaces, sur les milieux naturels, les réserves naturelles, les parcs nationaux par exemple, le réseau Natura 2000. Voilà.
Donc ça, c'est quand même un chantier d'ampleur, parce que pour justement essayer d'enrayer cette baisse dramatique de la biodiversité, il faut mettre en place un chantier colossal, non ?
Oui, il y a plein de mesures à faire. Récemment, hein, cet été, il y a un plan biodiversité qui a justement été pris pour essayer de porter cet enjeu biodiversité au même niveau que celui qu'on connaît un petit peu plus sur le climat ces dernières années.
Ça veut dire que si on s'en donne les moyens, comme on l'a fait pour les loutres ou les loups, on pourrait aller vers un futur plus positif pour notre biodiversité.
Donc il y a des signaux positifs qui permettent d'espérer, qui nous disent que tout n'est pas perdu. Mais effectivement, il va falloir agir sur les raisons qu'on a rappelées à l'instant. Et je rappellerai juste une mesure du plan biodiversité, un objectif en tout cas, zéro artificialisation nette, dont il va falloir discuter et s'emparer.
Oui, y a du boulot, hein, effectivement, sur ce front-là. Une dernière question, Héloïse.
Et est-ce que chacun, sa petite échelle, peut jouer pour la biodiversité ? Est-ce qu'on peut observer autour de nous des espèces et être utile à la collectivité ?
Alors oui. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Il faut savoir qu'en quelques années, le nombre de participants à ces opérations de sciences participatives a été multiplié par 2,5. Nous en avions 21 000 en 2011, 54 000 aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est que ça produit des données, donc pour affiner le diagnostic, ça permet de sensibiliser les gens, et on le voit, 24% des Français aujourd'hui considèrent que la biodiversité est un des problèmes environnementaux les plus préoccupants.
Mais est-ce que c'est une façon de concrètement pouvoir enrayer aussi le problème de la disparition de ces espèces ?
À partir du moment où on sensibilise, plus on va sensibiliser, c'est ce qui se passe pour le climat. Aujourd'hui, les gens prennent la mesure des choses et peuvent s'impliquer sur d'autres chantiers plus concrets, parce qu'ils ont été sensibilisés, et là, c'est le début de la prise de conscience.
Merci beaucoup à vous Antoine Lévesque, merci également Héloïse Rambert. On se retrouve
Mathieu.
Demain avec une nouvelle Une de la Science.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'est pas fameux non plus sur le front des océans qui se réchauffent beaucoup plus vite que prévu. C'est ce que nous expliquent les scientifiques, des scientifiques dans la revue Science. La température des océans dans la couche de 2000 mètres sous la surface a été revue à la hausse de façon importante pour la période 1971-2010. Les mesures anciennement utilisées n'étaient pas assez précises. Depuis le début des années 2000, 3900 balises flottantes et plongeantes réparties sur le globe fournissent des données beaucoup plus complètes. La température des océans est un indicateur du réchauffement climatique car l'eau absorbe l'excès de chaleur de l'atmosphère créé par les rejets de gaz à effet de serre. Près de 1500 iguanes ont été réintroduits sur l'île de Santiago, une île de l'archipel équatorien des Galapagos où ces reptiles avaient eux aussi disparu il y a près de deux siècles. Les animaux ont été lâchés dans le cadre d'un programme de restauration de l'environnement. Ils avaient été prélevés sur une autre île de l'archipel du nom de Cemur Norte. La présence d'iguanes à Santiago avait été signalée la dernière fois en 1835 lors de la visite de Charles Darwin, inventeur de la théorie d'évolution des espèces. Et puis enfin, dans la revue Nature, on apprend que pour la première fois, des scientifiques ont réussi à démontrer que les naines blanches se transforment en sphères de cristal géantes alors que leur noyau liquide se solidifie lentement. Les observations ont révélé que ces étoiles très denses ont un noyau solide composé d'oxygène et de carbone en raison d'une transition de phase se produisant au cours de leur refroidissement. Semblable à celle de l'eau qui se transforme en glace, mais à des températures beaucoup plus élevées, la découverte repose en grande partie sur des observations effectuées avec le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne.